Voilà, bonjour à tous. Alors ce dernier chant qu'on vient de chanter, là, il dit que notre vie est cachée en Christ, et c'est un peu de ça que je voudrais vous parler aujourd'hui. Dans la vie, souvent on me dit « Ah, que Dieu te bénisse », ou à la fin d'une lettre, on va écrire « Soyez bénis ». Et quand on dit ça, à quoi on pense ? On pense que Dieu t'accorde la santé, que Dieu te fortifie, que tes affaires marchent bien, que tes enfants réussissent à l'école, etc. etc. On pense à toutes ces choses. Mais voilà que la Bible nous propose une autre sorte de bénédiction. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de la première lettre aux Éphésiens, le premier chapitre de la lettre aux Éphésiens. C'est Paul qui écrit donc aux églises de la région d'Éphèse. On pense que c'était plutôt une lettre circulaire, parce qu'il n'y est pas fait mention de salutation personnelle, et qui était destinée aux différents groupes chrétiens de l'Asie mineure, donc Éphèse, Colosse, Laodicée. Au moment où il écrit cette lettre, l'apôtre Paul est en prison. On est dans les années 62-63. Il a 3 voyages missionnaires derrière lui. Il a mûri, il a essuyé de nombreuses tempêtes, au propre comme au figuré. Il est en prison, en attente de jugement. Il se prépare à peut-être mourir. Alors, dans ce contexte difficile, il va transmettre une sorte de synthèse de tous les thèmes importants qui se dégagent de toute son œuvre, de toutes ses autres lettres. L'œuvre du salut en Christ, la justification par la foi, le rôle du Saint-Esprit, la vie de l'Église, etc. Alors, comme dans ses autres lettres, il commence par une première partie plutôt théologique où il va expliquer, il va parler de Dieu, il va parler des réalités spirituelles, et il termine la deuxième partie avec des recommandations pratiques. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au premier chapitre de la lettre. Donc, on est dans la partie théologique, la partie qui parle de Dieu. Hein. On va le faire en deux temps. D'abord, les versets 1 à 14 qui nous présentent les bénédictions dont Dieu nous a comblés en Christ. Puis les versets 15 à 23, où il nous montre les conséquences de ces bénédictions pour la vie des chrétiens. Alors ce chapitre, je trouve que c'est un chef-d'œuvre d'un point de vue littéraire, du point de vue de sa structure, du point de vue du vocabulaire utilisé, avec des mots qu'on ne trouve pas dans les autres lettres de Paul, et surtout par le message grandiose qu'il veut nous communiquer. Donc on va lire maintenant les versets 1 à 14. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru, et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Voilà. C'est un peu compliqué, hein ? Alors, dans toutes les lettres de Paul, ça commence par une salutation assortie d'une bénédiction. Hein, grâce et paix vous soient données. Il commence par dire, c'est Paul qui écrit à telle église, grâce et paix vous soient données de la part de Dieu. Ensuite, il dit, je rends continuellement grâce pour vous dans mes prières. Hein, il dit qu'il prie pour les gens. C'est presque toutes les lettres commencent comme ça. Mais ici, avant qu'il dise, je prie pour vous, il commence d'abord une immense phrase. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte dans le texte. Enfin, il n'est plus là, le texte. Donc, c'est la phrase, elle va du verset 3 jusqu'au verset 14. Donc, à partir du moment où il dit, « Béni soit Dieu qui nous a comblés de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ », et jusqu'à la fin du passage qu'on vient de lire, c'est une seule phrase. Donc, c'est une immense phrase avec plein de virgules, de « en qui », etc. Enfin, plein de subordonnées, voilà. Et donc, c'est vraiment une très longue phrase. Et... donc, ça commence comme ça. Béni soit Dieu, en fait, parce qu'il nous a bénis. Béni soit Dieu pour ses bénédictions. Alors, on comprend bien que quand nous, on dit on bénit Dieu, ça n'a pas le même sens que quand on dit que Dieu nous bénit. Quand nous bénissons Dieu, nous disons du bien de lui. Quand Dieu nous bénit, il nous fait du bien. Ce n'est pas tout à fait pareil. Hein. Ça n'a pas la même dimension. Hein. Voilà, Dieu nous bénit en nous faisant du bien, pas seulement en parole, mais aussi en action. Donc oui, comme j'ai dit tout à l'heure, toutes les bonnes choses que nous recevons de la vie, nous les lui devons. Hein. C'est ce qu'on fait quand on a les cultes de reconnaissance, que chacun donne des témoignages, ben, on reconnaît la présence de Dieu dans les choses de la vie. De même, dans Actes 14 au verset 17, nous voyons Paul et Barnabas qui expliquent aux païens, aux habitants de Lystre, qu'ils annoncent le Dieu invisible qui les comble de ses bienfaits à travers la pluie et le soleil, qui produisent de bonnes récoltes, mais aussi en remplissant leur cœur de joie. Donc oui, Dieu nous bénit dans ces choses visibles, matérielles. Mais ici, Paul précise que les bénédictions dont il parle sont d'ordre spirituel. Donc spirituel, c'est l'adjectif qui va avec esprit. C'est des bénédictions de l'ordre de l'esprit, du Saint-Esprit de Dieu. Hein. Donc il ne parle pas de richesse matérielle, ni de prospérité économique, ni de réussite sentimentale ou sociale. Il veut faire comprendre aux Éphésiens ce que Jésus leur a apporté d'extraordinaire. Alors, dans ce passage, le nom de Jésus revient plus d'une quinzaine de fois, sous différentes formes. Soit c'est le Seigneur Jésus-Christ, soit c'est en Christ, ou simplement en lui. Et dans toute la lettre, l'expression en Christ, elle revient 34 fois. Donc c'est bien Jésus qui est glorifié, qui est mis en lumière, qui est montré comme le canal de toutes les bénédictions de Dieu envers l'humanité, le médiateur par excellence. En français, à cet endroit, on pourrait mettre deux points. Hein, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle, tchac, deux points. Et on va lister maintenant ces bénédictions, on va voir de quoi il s'agit. Voilà. Alors là, David, si tu peux nous mettre le plan. Donc j'ai découpé le passage en différents versets pour qu'on voit un peu plus clair. Voilà. Alors, donc, on a vu l'introduction. Hein, donc, j'ai dit que l'épître aux Éphésiens, c'était une synthèse spirituelle de la pensée de Paul. Et maintenant, on a un plan de cette première partie. Et on voit que, donc, d'abord, donc là, les mots en gras, c'est les bénédictions dont Dieu nous a comblés. Hein. Donc, on nous dit que Dieu nous a choisis d'avance. Oh, mais je l'ai, cette feuille-là. Dieu nous a choisis d'avance conformément à son plan. Alors, vous voyez, dans les versets 4 à 6, on nous dit « choisi d'avance pour être saint, adopté par lui et célébrer sa gloire ». Et dans le verset 11, on nous dit « nous avons été choisis d'avance pour appartenir à Christ ». Choisi d'avance. C'est même dit « avant la fondation du monde, destiné d'avance à l'adoption, avant même notre naissance ». Alors, ce thème de la prédestination, qu'on appelle aussi l'élection, là, le choix que Dieu a fait de nous, a fait couler beaucoup d'encre. Il a suscité beaucoup de débats théologiques. Mais il a été remis à l'honneur ces dernières décennies par la redécouverte de la théologie de Jean Calvin, qui a beaucoup développé cette doctrine. Alors bien sûr, devenir chrétien, c'est un choix personnel. On décide de devenir chrétien, on choisit. Et pourtant, quand on commence à marcher avec Jésus et qu'on regarde en arrière sa vie écoulée, on s'aperçoit qu'on était appelé de longue date dans ce chemin. Et on voit que Dieu était présent bien avant qu'on se tourne vers lui. Jésus lui-même nous dit cela en Jean 15, verset 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, C'est moi qui vous ai choisi et établi pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Alors, penser que Dieu nous a choisis de toute éternité, ça crée un peu le vertige quand même, de se dire, bien avant que je naisse, j'étais choisie. Alors, le revers de la médaille, on va dire, c'est de penser que, puisque Dieu sait qui il va appeler, tout est joué d'avance et qu'il n'y a rien à faire. Pourtant, la Bible ne permet pas d'apporter cette conclusion. Nous avons bien à répondre à cet appel et notre travail de disciple continue d'être l'amour du prochain, quel qu'il soit, l'annonce de l'Évangile et tout cela enveloppé de prières. Donc, ce n'est pas parce que Dieu sait déjà qui il va appeler que nous, on n'a plus besoin d'annoncer, au contraire. Alors, si ce thème de la prédestination vous intéresse plus, vous pouvez regarder le chapitre 9 de l'Épître aux Romains, où c'est davantage développé. Donc, ça, c'est ce que Dieu a fait il y a très longtemps. Il y a très longtemps, avant la fondation du monde, il nous avait choisis. Ensuite, il y a le temps maintenant, on va dire le temps de l'humanité. Là, il est dit que, donc ça, c'est le verset 7, « Jésus est mort pour nos péchés, il nous a rachetés par son sang. » Donc, c'est dit, nous avons reçu la rédemption. Rédemption, c'est comme rachat. C'était un mot qu'on utilisait pour dire qu'on rachetait un esclave pour le libérer. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous. Donc nous avons entendu le message du salut, nous y avons répondu, nous sommes considérés par Dieu comme portant la justice et l'innocence de Christ. Que nous sommes sans tache ni défaut devant Dieu. Mais quelle faveur ! Combien de gens dans le monde luttent contre la culpabilité sans connaître la source du pardon, la croix de Christ. Mais est-ce qu'on se rend compte encore de la nouvelle extraordinaire que c'est ? C'est pour ça qu'on l'appelle la bonne nouvelle, l'Évangile. Quand on se convertit, on est stupéfié, émerveillé par cette découverte incroyable de la liberté. Mais avec les années, on s'y habitue et on risque de finir par en parler de manière légère. La phrase « Jésus est mort à la croix pour mes péchés » devient presque une banalité, une chose qu'on sait par cœur, qu'on récite comme de bons élèves. Mais est-ce que nous mesurons bien ce que cela signifie ? Comme je disais, rédemption, c'est rachat en vue de la libération. Donc quelqu'un payait pour qu'un esclave soit libéré. Le prix variait en fonction de la force de travail que l'esclave représentait. Un homme valait plus qu'une femme, une femme plus qu'un enfant. Combien avons-nous coûté à Dieu pour nous racheter du pouvoir des ténèbres et de la mort ? Un prix qu'aucun de nous ne consentirait à payer, la vie de son propre fils. Une sœur dans la foi m'a raconté qu'un jour où elle répandait son cœur devant Dieu en se plaignant d'une situation qui la faisait souffrir, elle a même dit à Dieu « Pourquoi ne fais-tu rien pour moi ?» Et elle a vraiment, dans son cœur, elle a entendu Dieu lui répondre « Mais je t'ai donné mon fils, tu trouves que ce n'est rien ?» Elle s'est vraiment sentie reprise. Oui, chacun de nous est très précieux aux yeux de Dieu. Il nous a payé un prix fou pour que nous soyons libérés du péché et que nous lui appartenions. Alors gardons cette réalité devant les yeux et ne nous y habituons surtout pas. La troisième étape du grand projet de Dieu, c'est ce qui va se passer à la fin des temps. Donc là, c'est les versets qui sont au milieu, qui sont en rouge, qui révèlent le but ultime de Dieu. C'est le verset 9. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Selon les traductions, c'est écrit son plan secret. Tout rassemblé en Christ quand les temps seraient accomplis. Le verbe qui est traduit par réunir ou rassembler signifie en grec résumer, récapituler. C'est comme si on disait en Christ, tout est dit, tout est résumé, tout est fait. Enfin, voilà, c'est lui le but ultime de l'histoire, c'est lui, quoi. Jésus est le but ultime de l'histoire humaine. En fait, nous connaissons la fin de l'histoire du monde. Nous savons que c'est Jésus qui aura la victoire finale. C'est cette sagesse-là que Dieu nous donne, cette sagesse de savoir ça. Combien de gens, angoissés par la crainte de l'avenir, vont consulter des voyantes pour connaître la suite des événements ? Combien de gens vivent sans véritable but qui puisse les porter et les pousser vers l'avenir, parce qu'ils ont peur de l'avenir qui est caché à leurs yeux. Mais vraiment, que nous sommes privilégiés. Non seulement nous connaissons le plan de Dieu, nous savons que nous sommes du côté du vainqueur, mais nous en sommes aussi partie prenante. Dieu nous appelle dans sa mission de rassembler son peuple, de tout amener à l'obéissance à Christ. Alors, pourquoi j'ai mis les versets en rouge au milieu ? Vraiment, c'est hier soir que je me suis rendu compte, hein, alors que ça fait un moment que je suis sur ce texte. Alors, je me suis rendu compte que ce texte, il a une structure particulière. Donc, pour ceux qui se souviennent de leur cours de lycée en français, c'est une structure en chiasme. Ça veut dire que l'idée importante, elle est au milieu. L'idée importante, c'est les versets 8 à 10. Hein, que Dieu va tout réunir en Christ, c'est le but ultime, c'est ça la chose importante. Et les autres idées, elles sont organisées autour de ça en miroir. Ça veut dire, la première partie, les versets 4 à 6, nous dit « Dieu nous a choisis d'avance pour être saints, adoptés par lui ». Et la fin, les versets 12 à 14, nous dit « Nous sommes ses héritiers ». Nous avons reçu le Saint-Esprit comme gage de l'héritage. Nous sommes ses héritiers. Donc, on est adoptés et héritiers. Voilà, ça c'est l'œuvre de Dieu, au début, à la fin. Ensuite, les versets qui encadrent le verset en rouge, « Jésus est mort pour nos péchés, nous a rachetés ». Et donc, au verset 11, « Nous avons été choisis d'avance pour appartenir à Christ. Il nous a rachetés, nous lui appartenons. » Donc ça, c'est l'œuvre de Christ. Et au milieu, c'est le but. Le but, c'est que tout soit rassemblé sous la seigneurie de Christ. Voilà. Donc, quand j'ai compris ça, après, j'arrivais mieux à comprendre comment les mots étaient organisés, quoi. Voilà. Alors, justement, les versets 11 à 14, dans ces versets, il est question de l'héritage réservé aux croyants. « Puisque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi ses héritiers. » Alors ce vocabulaire de la part d'héritage fait référence à l'Ancien Testament, quand les Israélites devaient entrer dans le pays promis pour y recevoir un terrain, leur part d'héritage. Le psaume 37, par exemple, nous promet que les justes posséderont le pays. En Christ, ce n'est plus un lopin de terre que Dieu nous promet, mais la participation à son royaume, une place dans sa maison, un endroit où nous serons définitivement chez nous. Alors, dans les derniers versets, on passe donc, tout le texte était en nous, et puis, vers la fin, alors il fait une distinction, il parle de nous et puis de vous. Alors, c'est parce que il parle d'abord des Juifs. Il dit, alors c'est où ça ? Voilà. En lui, nous avons été désignés comme héritiers. Voilà, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. Nous qui avons par avance, donc il parle des Juifs, hein, ceux qui ont les premiers, les Juifs qui ont les premiers trouvé le Seigneur, il parle de nous. Et ensuite, il dit vous. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, vous avez cru. Donc ce vous s'adresse aux païens, aux Éphésiens et aux autres églises. Hein. Vous, donc nous les Juifs et vous les non-Juifs. Vous avez cru et Dieu nous rassemble et Dieu nous donne son esprit et il fait un seul peuple de tout ce monde. Voilà. Et donc, à la fin, on retourne en nous, mais c'est pour dire nous, les deux groupes, quoi. Nous, les Juifs, vous, les non-Juifs et nous, tous ensemble. C'est pour ça qu'on revient au nous, mais c'est plus large que dans le verset au milieu, quoi. Voilà. Et alors, le Saint-Esprit... voilà. Donc, les Juifs et les non-Juifs ont reçu... La promesse du même héritage. Et la preuve que ces choses vont s'accomplir, c'est l'Esprit Saint qu'il nous a donné déjà aujourd'hui. L'Esprit Saint promis qui constitue un acompte de l'héritage. Alors l'acompte, vous savez ce que c'est quand on achète une maison, c'est ce qu'on paye au début pour dire oui, c'est sûr, je vous payerai la suite plus tard. Ben, Dieu, c'est pareil. Il nous a donné le Saint-Esprit en disant voilà, vous avez déjà le Saint-Esprit, la suite vient. Et c'est sûr, c'est promis, quoi. Donc, c'est juste un acompte de l'héritage. Donc, c'est un mot commercial. Hein. Voilà. Donc, mais il faut savoir aussi que ce Saint-Esprit, on ne l'a pas reçu juste comme ça pour se sentir bien ou pour que notre prière soit mieux agréée par Dieu ou je ne sais quoi. Nous l'avons reçu pour la mission. Hein. Le Saint-Esprit, c'est l'équipement pour la mission. Alors, dans tout le passage, on a aussi beaucoup de mots qui parlent, ça j'ai pas mis en avant là, mais il y a beaucoup de mots qui parlent de l'amour de Dieu. On a la généreuse bonté, les bénédictions dont il nous a comblés, le dessein bienveillant de sa volonté, etc. Tout le temps, il y a des mots qui nous rappellent que tout ça, c'est fait dans l'amour. Tout ça, ça vient de l'amour du Père parce qu'il nous aime. Et donc, il y a une expression qui revient trois fois, c'est célébrer sa gloire. C'est notre part. Dieu nous a bénis de toutes ces choses pour que nous puissions célébrer sa gloire. Et j'ai vu que c'était à trois endroits dans le texte. Je l'ai mis en bleu là pour qu'on le voit. Voilà. Alors maintenant, on va lire la deuxième partie du chapitre à partir du verset 15. Donc là, Paul, il change de phrase, ça y est, il met un point, il passe à la suite. Et maintenant, il va parler des Éphésiens, il va dire qu'il prie pour eux. Et on va voir qu'est-ce qu'il demande pour eux dans la prière. Et en fait, il aimerait qu'ils comprennent les conséquences pour leur vie de ce tableau grandiose qu'il vient de brosser à leurs yeux. Donc je lis à partir du verset 15. C'est pourquoi, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Voilà. Donc ce que Paul demande, c'est que ses lecteurs ou ses auditeurs connaissent Dieu, qu'ils comprennent qui est Dieu et qu'est-ce qu'il a fait pour eux. Donc il demande une révélation spéciale pour eux. Et donc il y a trois éléments qui sont mis en avant. Qu'est-ce qu'on va comprendre après avoir entendu toutes ces bénédictions? L'espérance qui est attachée à l'appel. Espérance, c'est un mot chrétien. C'est bien plus que l'espoir. Un espoir, ça peut être déçu. Alors que Dieu nous promet que l'espérance ne trompe pas. Et c'est elle qui va orienter nos vies vers les buts que le Saint-Esprit lui-même va nous donner. L'espérance, ça nous pousse en avant. On a un but et on avance. Comme je l'ai déjà dit, nous savons où nous allons et cette connaissance oriente nos choix et nous remplit de force pour avancer. Ensuite, il y a la glorieuse richesse de son héritage. Cet héritage, c'est quoi? C'est la vie éternelle. C'est le fait de vivre avec Dieu après ce qu'il nous a promis. Donc la vie éternelle, elle a commencé en nous, à notre conversion, et elle nous fera entrer pour toujours dans la présence de Dieu, à notre mort. Samedi, il y a 8 jours, il y a eu à Altekendorf le culte d'adieu pour Gabin. Vous vous souvenez de ce jeune homme de 22 ans, dont on a déjà parlé ici, qui est mort au bout de 6 mois d'un cancer foudroyant, quelques années après avoir donné sa vie à Jésus. J'ai suivi sur YouTube la retransmission en direct de la cérémonie. Et j'ai été touchée parce que tous les amis qui ont pris la parole ont partagé de la foi de Gabin. Il ne se plaignait jamais, ne se lamentait pas sur sa vie qui se terminait si tôt. Oui, parce que ce cancer, les médecins ont dit qu'il n'y avait aucun remède, donc il n'a même pas eu de traitement. C'était juste pour soulager les douleurs, mais il n'y avait aucun espoir d'aucune sorte de traitement. Donc dès le début, on lui a dit « dans 6 mois, tu vas mourir ». Donc dès le début, il savait « je vais mourir ». Donc il y a eu beaucoup de gens qui ont prié pour lui, et malgré ça, il est mort à la fin. Mais il paraît qu'il disait « Dieu doit vraiment trouver que je suis quelqu'un de très spécial pour m'envoyer une maladie aussi rare ». Alors moi, celle qui m'a le plus impressionnée en regardant la retransmission, c'est sa fiancée. C'est une jeune fille de 20 ans qui a pris la parole à plusieurs reprises, sans pleurer, alors je vais essayer de faire comme elle, et qui a dit que, comme beaucoup d'autres jeunes filles, elle avait rêvé du prince charmant, qu'elle avait fait des projets d'avenir avec lui, des projets de vie réussis. Et alors elle disait, « Souvent, on imagine qu'il faut cocher un certain nombre de cases pour réussir sa vie. La santé, un bon travail, un mariage heureux, des enfants sans gros problèmes, de belles vacances, une belle maison, et on peut en rajouter derrière. Mais en côtoyant Gabin et en voyant comment il a fait face à son épreuve, j'ai compris qu'il n'y a qu'une seule case vraiment importante à cocher dans la vie, c'est d'appartenir à Christ. » Voilà. La troisième chose que Paul veut nous faire comprendre, c'est la grandeur, l'immensité de la puissance de Dieu. Alors dans le grec, l'expression, c'est une phrase incroyable avec trois ou quatre mots de suite, des synonymes qui veulent tous dire la même chose, qui veulent dire la grandeur puissante et extraordinaire. Enfin, c'est plein de mots pour dire que c'est immense, immense, immense. Quoi. L'extraordinaire puissance de Dieu. J'ai écrit pour montrer la force incommensurable de la puissance de Dieu. Donc il nous dit qu'il l'a prouvé par la résurrection du Christ et par son ascension dans les lieux célestes où il est établi au-dessus de tout pouvoir et il est le chef de l'Église. Donc Jésus a vaincu la mort et nous a ouvert un avenir magnifique. Cela signifie que nous avons part à sa victoire et que nous n'avons pas à craindre les puissances mauvaises. Parce que quand Paul dit qu'il est au-dessus de toute domination, pouvoir, etc., ça implique aussi les puissances de l'ennemi. Hein. Il dit qu'il est au-dessus de tout ça. Donc on n'a pas besoin d'en avoir peur. La puissance de Dieu nous accompagne dans notre mission sur la terre. Donc le Saint-Esprit qui est en nous... Ça y est, j'ai perdu ma page. Voilà, on arrive. Alors, le Saint-Esprit qui est en nous peut conduire nos prières et nos actions pour réaliser les plans de Dieu dans ce monde et détruire même les œuvres du diable. Donc, soyons audacieux. N'ayons pas peur de prier, de demander à Dieu même des choses qui nous semblent impossibles. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes légitimes pour demander, par exemple, la guérison ou n'importe quelle intervention de Dieu dans nos vies ou celle de ceux qui nous entourent. Mais ça ne veut pas dire que Dieu fera forcément ce que nous demandons. Simplement, nous sommes invités à lui demander, à lui faire confiance. Apprenons aussi à écouter le Saint-Esprit et soyons attentifs à ce que Dieu nous dit. Alors voilà, ces bénédictions spirituelles, elles sont tellement plus importantes que les bénédictions terrestres, matérielles ou relationnelles. Il y a quelques semaines, on avait aussi le culte de l'Église persécutée et on a aussi vu en vidéo ou entendu des choses qui sont frappantes, quoi. Des gens qui risquent leur vie pour avoir une Bible. C'est que vraiment, ils ont compris que ces bénédictions-là sont plus importantes que tout le reste. Et pourtant, quand nous nous attachons à rechercher les bénédictions spirituelles, Dieu nous donne aussi le reste. Hein. Il nous donne aussi des bénédictions plus personnelles. Perceptible, plus terre à terre. C'est le sens de la promesse de Dieu quand il dit, de Jésus, quand il dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données en plus. » Ça, c'est dans Matthieu 6, au verset 33. Ou bien dans Romains 8, verset 32, il est aussi dit « Lui qui n'a pas épargné son propre fils, comment, pour vous, hein, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout en plus hein ?» Il nous a donné le plus grand, alors il peut nous donner le plus petit. Mais ça ne veut pas dire qu'il va tout nous donner. Et c'est là où il faut vraiment faut être sage aussi. Hein, de ne pas dire, oui, j'ai prié, donc ça va arriver forcément. Ce n'est pas vrai. Voilà, on arrive à la conclusion petit à petit de notre texte. Là. Voilà. Alors, à travers l'épître aux Éphésiens, Paul voulait encourager les chrétiens à rester attachés au Christ. Et à ne pas se laisser séduire par des enseignements supposés plus spirituels. Par exemple, comme ceux qui voulaient imposer aux chrétiens les préceptes de la loi juive. Ou ceux qui voulaient leur apporter des enseignements secrets, qui auraient fait d'eux des initiés, des élites chrétiennes. Comme la philosophie gnostique qui commençait à apparaître alors dans le monde judéo-chrétien. Donc cette philosophie, elle dénaturait la personne de Christ. Et elle faisait croire aux gens qu'il y avait des choses plus secrètes, plus importantes à connaître, etc. Rien n'a changé sous le soleil. Vous ouvrez Internet, vous en trouvez de toutes sortes, et comme ça. Hein. Voilà. Et c'est pour ça que Paul utilise dans cette épître des mots un peu curieux, comme les lieux célestes, le mystère de sa volonté, le pouvoir, les autorités, etc. Parce que c'était des mots qu'utilisaient les gens de cette mouvance-là. C'était des mots, ils voulaient apprendre les mystères, ils voulaient avoir la plénitude, et des choses comme ça. Et donc Paul, il montre que tout ça se trouve en Christ, qu'il n'y a pas besoin d'aller le chercher ailleurs. Et c'est tout à fait valable pour aujourd'hui, ça. Les toutes sortes de groupes chrétiens, pas chrétiens, qui proposent toutes sortes d'enseignements qui vont nous permettre d'aller plus loin et de savoir plus de choses. Tout est en Christ, tout est en Christ. Le critère de discernement qui nous permet de juger de la valeur de n'importe quel enseignement, c'est la place qu'il fait à Christ. Est-ce qu'il présente le Christ comme le seul médiateur, le seul sauveur ? Est-ce qu'il le célèbre comme tel ? Ou bien est-ce qu'il amoindrit l'importance du Christ en y ajoutant des mérites humains ? Ou en le mettant carrément de côté. Voilà. Donc on arrive à la fin. L'expression « célébrer sa gloire » revenait 3 fois dans la fameuse phrase des versets 3 à 14. Et c'est vraiment à cela que Paul veut nous encourager. Alors dans ce temps de l'Avent, levons les yeux vers lui avec joie et espérance et célébrons sa gloire, car il en est vraiment digne. Joyeux Noël à tous !